Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Comment se porte la justice malienne? Quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles? Le ministre de la Justice, Maître Mamadou Ismaël Konaté, a démissionné ce lundi 27 décembre. Dans la soirée, il est remplacé par Amidou Younoussa Maïga, un magistrat à la retraite. Alors, quels sont les enjeux auxquels le nouveau ministre devra faire face? Nos invités, Ibrahim Kassa Maïga et Baba Dakono, juriste, Maître Khalifa Yaro, avocat, et Ismaël Alassane Maïga, sociologue. Je suis Mohamed Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons déjà commencer à savoir les raisons de la démission du ministre avec Assetou Kanté.
C'est aux environs de 20h que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mamadou Ismaël Konaté, a publié sa lettre de démission. Dans cette lettre, l'ancien garde des Sceaux dit prendre acte de la décision de la Cour d'appel de Bamako de rendre son arrêt de relax dans l'affaire dite Rasbat. Le ministre poursuit que le régime, en donnant écho à une telle vertu, se sauve sans la République. Selon lui, l'action des ministres de la Justice vise à suivre l'application des lois et des règlements et poursuivre le non-respect de leur violation, le cas échéant. Maître Konaté estime que la préservation des libertés est aussi utile et nécessaire en République que le respect absolu s'impose à tous. En août 2016, sur instruction de Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la Justice à l'époque, le procureur général avait ouvert une information judiciaire contre Rasbat pour incitation à la désobéissance des troupes. Cette action a donc conduit à l'arrestation de Rasbat par la brigade d'investigation judiciaire de la gendarmerie du camp 1.
Alors, c'était un reportage tout de suite de Assetou Kanté. Monsieur Khalifa Yaro, vous, que pensez-vous des raisons de la démission du ministre Konaté?
Merci, monsieur Touré. Je dois vous avouer très sincèrement que je ne connais pas les raisons profondes, les raisons qui fondent cette démission. Mais si je me fie au reportage qui vient de nous être parvenus, j'en déduis qu'il a pris acte de l'arrêt de la cour d'appel de Bamako dans l'affaire ministère public contre Rasbat, qu'il a pris acte de ce que la préservation des libertés et leur respect par tous les concitoyens s'impose erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous. De ce point de vue, si cette démarche est fondée, je pense que la démission qui est l'objet est légitime. Parce que hier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une procédure contre le susnommé Rasbat et qui a abouti à l'abandon des poursuites. Du coup, je ne voudrais pas m'interférer dans l'action effectivement des magistrats et je me réserverai de dire que effectivement Maître Konaté, que je connais comme étant un homme pondéré, bon, c'est à quoi s'en tenir lorsqu'il présente sa démission du gouvernement.
D'accord.
De la République.
Monsieur Dakono, vous, que pensez-vous de cette démission de Maître Konaté?
Je pense que déjà dans la lettre et la lecture qui en est faite, je ne saurais parler de l'authenticité de la lettre, mais tout semble indiquer que la lettre émane de lui. Je pense que c'est plutôt prendre acte de la décision du parquet qui a abandonné les charges, parce que la justice, quant à elle, les judiciaires qui ont rendu la décision à la suite de l'abandon des charges, est tout à fait indépendante du ministère de la Justice. Et ça serait également remonter à un des propos du ministre à l'époque où il disait qu'il ne souhaite pas travailler avec des procureurs qui viennent prendre des instructions de lui. Donc même si le procureur est allé à contresens de ce qu'il voulait en entamant la procédure contre le nommé Youssouf Bachilé appelé Raspach, c'est quand même une décision qui émane du procureur, mais même si elle paraît contradictoire à lui, sa volonté étant ministre de, la justice. Il y a le fait qui est important à rappeler, qui puisse au-delà de cette phrase ou de la portée qu'on veut y donner, c'est que l'abandon des charges repose sur la perte d'une preuve matérielle. À l'occurrence, il s'agirait d'une clé USB. Et cela dénote d'un dysfonctionnement sérieux dans le système et il semble que ce n'est pas la première fois que de telles choses arrivent. Et c'est une importante leçon à tirer au-delà de la démission du ministre, des dysfonctionnements qui puissent entraîner ou qui puissent avoir des conséquences souvent très graves sur la justice et comment elle est rendue dans notre pays.
D'accord. Ismaël Alassane Maïga, vous êtes sociologue. Vous, que pensez-vous de cette démission aussi?
Voilà, bonsoir et bonsoir à vos auditeurs. Bon, je pense que la décision de Maître Konaté, comme vous l'avez dit ou comme a dit M. Yarou, est un homme avisé de la situation, rester ou partir, parce qu'un choix, il semble que les plus hautes autorités du pays ont voulu l'accalmer. Et comme il le disait dans sa lettre, lui, sa mission, c'est de suivre et de poursuivre. Alors je pense qu'il a tiré les conclusions. Et comme il l'a dit, il prend ses libertés. Ça me semble aussi simple que ça. Quand il a compris qu'un choix a été fait, à lui de choisir entre rester, baisser la tête et partir. Et je pense qu'il a choisi de partir.
D'accord. Maître Mamadou Ibrahim Ikassa Maïga, pardon, est-ce que vous pensez que les raisons évoquées par le ministre pour démissionner sont légitimes?
A priori, nous pouvons le penser, mais en voyant le cours des événements, parce que c'est une situation que nous avons suivie depuis le début, moi je pense qu'en tant que juriste, il y a eu un manquement. Il y a eu une erreur d'appréciation parce que la base juridique des poursuites engagées contre Rasbach manque de rigueur vu justement le contexte et la personnalité même de Rasbach. On aurait dû réfléchir à deux fois avant de faire cet amalgame. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une poursuite sur la base de la loi sur le délit de presse. Maintenant, sur l'aspect portant sur la démoralisation des troupes, je pense que c'est de cela qu'il s'agit, le lien de causalité entre les propos tenus par Rasbach, propos qui entre-temps ont même disparu entre le tribunal et la cour d'appel, et justement cette démoralisation supposée qui n'est que virtuelle, n'est pas du tout établie. Donc là où je dis, en tant que juriste et ministre garde des Sceaux, on devrait réfléchir à deux fois, et il est le chef suprême des parquets, il ne faut pas l'oublier, et c'est lui qui incite et le procureur de la République et même le procureur général de la cour d'appel de continuer les poursuites. Nous sommes d'accord, c'est cela. Maître, on le dit très souvent, la plume est serve, la parole est libre. Mais de ce point de vue, les parquetiers, donc les procureurs, étaient obligés de poursuivre l'action publique. Okay, et la base était vraiment très tenue en tant que juriste. Donc, de ce point de vue, le ministre a fait bon choix de tirer les conclusions, de dire « Ok, je rends le tablier. Maintenant, est-ce que c'est par la grande porte ou par la petite porte ?» L'appréciation peut être modulée selon ce qu'on en pense.
D'accord. Monsieur Dakono, quand le ministre Mamadou Ismaël Konaté déclare que le régime, en donnant écho à une telle vertu, se sauve sans la République, est-ce qu'il veut dire que le pouvoir s'est mêlé du jugement de Rasbach?
Je pense que cette question est en partie répondue par ce que Maître Ikassa vient de dire en disant que dans la normalité des choses, le parquet ne peut se substituer à ce que le ministre de la Justice, à la direction que le ministre de la Justice donne à l'affaire. Et ce qui semble, l'analyse qu'on peut tirer de ce qui s'est passé hier, c'est que le procureur est allé, n'a plus la volonté d'aller dans la poursuite de ce dossier, malgré la volonté du ministre de la Justice de la continuer. Et ce qui se dit, c'est que certainement des pressions ou une influence sur le procureur venue de l'extérieur en haut lieu donc du régime. Donc en fait, au-delà, il y a un double désaveu. Désaveu du procureur envers le ministre, mais qui repose, comme je l'ai dit dans mon propos précédent, sur le fait que le ministre lui-même avait donné une direction des choses dans le sens que les procureurs devraient pouvoir agir sans venir prendre des instructions chez lui. Mais le deuxième désaveu, c'est que le procureur semble avoir reçu une pression ou un soutien au-delà du ministre. Donc un désaveu du régime, et ce qui peut expliquer si jamais il est prouvé que la lettre est du ministre Konaté, qu'il parle donc de se sauver sans la République.
D'accord. Monsieur Khalifa Yoro, est-ce que vous pensez également qu'il y aurait eu une pression sur le procureur ?
Vraiment, je ne sais pas. Je ne voudrais pas tellement m'aventurer dans une matière dont je ne maîtrise pas les contours. J'ai tiré ma leçon de tout ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu besoin de prendre l'avis de quelqu'un pour être ministre de la Justice. Si, ayant fait l'analyse et l'appréciation de l'état des lieux et des circonstances qui entourent cette affaire, il a jugé utile de présenter sa démission, je pense que c'est en toute indépendance et après avoir fortement réfléchi qu'il en a décidé ainsi. Et donc moi, je suis avocat, il ne m'appartient pas de faire un jugement de valeur sur la décision ou l'attitude d'un confrère. Mais ce que je retiens de toute cette affaire, c'est que la justice ne paraît plus juste. La justice est en perte de vitesse. Parce que quand un ministre de la justice démissionne, pour moi, ce n'est pas assez simple. C'est qu'il y a des raisons.
D'accord.
Qui traduisent un certain malaise.
D'accord, monsieur.
Et ça, il faut aller les chercher.
Ismaël Maïga, c'est vrai que ce n'est pas confirmé, on n'a aucune confirmation de ce sujet, cette question dont je vais vous poser. Est-ce que si toutefois il y a eu une pression venant de l'extérieur sur le procureur, est-ce que cela veut dire que Rasbat ne doit pas être jugé au Mali?
Ben, c'est une question compliquée que vous me posez. Juger au Mali, vous voulez dire qu'il doit aller à
la justice malienne?
Bon, je pense que Rasbat est un sujet comme tous les sujets. Donc, de ce point de vue, il ne peut pas échapper, il ne doit pas être quelqu'un qui pourrait ne pas être jugé. Simplement parce que, en fait, il y a souvent de l'amalgame. Ibrahim utilisait ce terme tantôt. Je pense qu'il y a souvent de l'amalgame. Tout ce déferlement d'humains à travers le phénomène Rasbat, ce n'est pas de l'amour pour Rasbat ou des convictions qui s'affichent derrière pour un homme. Il faut analyser ce déferlement humain. Pourquoi ?
Selon vous, pourquoi ?
Ben, écoutez, il y a trop de mécontents. C'est facile, vous questionnez le commun des mortels, il y a trop de mécontents. En réalité, Rasbat ne fait que l'écho des mécontents. Tous les déguerpis de différentes voies, tous les jeunes qui, sans emploi, sont en train de chercher des pistes. En fait, tous les mécontents du régime ont trouvé par où il faut s'exprimer. Et Rasbat a été une très belle expression, une très belle occasion pour tout ce monde et là-dedans. Dieu seul sait qu'il y a des gens qui ne croient en rien du tout. Que la République s'effondre aujourd'hui, ce n'est pas leur problème. Ils s'en fichent de moralité ou de vérité. Mais ils veulent être dans cette contestation simplement parce que c'est une voie qui semble aller un peu dans l'ordre de la désobéissance et ils font.
D'accord. On va juste écouter les Maliens qui réagissent tout de suite par rapport à cette démission.
La justice malienne, de façon générale, elle est dans la main des riches. Au Mali, ce sont les riches vraiment qui se taillent la part du lion concernant la justice. Donc, si tu as un problème au niveau du tribunal, il suffit d'aller glisser quelque chose au juge pour que tu puisses avoir gain de cause, quoi. Moi-même, j'ai envie de changer ma nationalité. Voilà.
Bon, la justice malienne, si on me demandait, je dirais qu'aujourd'hui, elle répond aux aspirations du peuple. Bon, moi, j'ai plus de 50 ans et j'ai assisté à beaucoup de procès. Vraiment, aujourd'hui, quand même, je suis très content de la justice malienne.
Concernant la justice malienne, moi, je m'en moque parce qu'on ne dit jamais la vérité dans ce pays-là. De façon générale, la justice n'est pas équitable. Comment on fait un jugement aujourd'hui, demain on dit non, le dossier est vide? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux même de la part de ces juges-là. On fait un jugement aujourd'hui, c'est les mêmes collègues, c'est la même famille. Le lendemain, on dit le dossier est vide. On condamne quelqu'un, le lendemain, on dit le dossier est vide. Ça, c'est pas sérieux. Non, ça explique que les juges sont corrompus, ils sont pas corrects.
Je ne suis pas très, très d'accord avec la justice malienne. Parce que, mon propre opinion, je crois que la justice malienne, elle est corrompue.
Nous pensons que 80 voire plus de pourcents de Maliens, vu ce qui se passe aujourd'hui au Mali, alors les amène aujourd'hui à ne plus faire confiance à leur justice. Nous demandons à nos magistrats, ils sont sous serment, de vraiment faire tout pour pouvoir se comporter ou se conformer par rapport à cette prestation de serment au Mali.
Maître Yaro, pouvez-vous répondre à cette question posée par un des Maliens qui vient de réagir tout de suite, qui dit que comment peut-on ouvrir un dossier aujourd'hui et le lendemain affirmer que ce dossier est vide?
Enfin, je vous ai j'ai écouté avec assez d'intérêt l'intervention de Ibrahim Issaka et Ikassa, qui a dit comment c'est organisé. Le parquet, c'est un collège de magistrats hiérarchisé, amovible. C'est-à-dire qu'il est possible dans le parquet de prendre des instructions à partir du moment où ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire le procureur d'un sens, il peut prendre des instructions du procureur général, le procureur général, celui du procureur général près de la Cour suprême, et ainsi de suite jusqu'au ministre de la Justice. Le dernier intervenant du micro-trottoir disait, il ne comprend pas comment est-ce qu'on retient des charges contre quelqu'un et subitement qu'on dise après que les charges sont abandonnées puisqu'il n'y a rien. Bon, cela traduit un dysfonctionnement parce qu'il s'agit du même organe qui poursuit, c'est-à-dire le parquet qui est en train de poursuivre. Comment se fait-il que en première instance qu'on trouve des charges de nature à maintenir l'intéressé dans des liens de la prévention? Et que pour cette même affaire, dans les mêmes conditions, qu'on présente l'affaire devant la cour d'appel et qu'on dise qu'il n'y a pas d'éléments. Alors que le parfait, c'est un collège, il est caractérisé par son unicité et son caractère amovible et hiérarchisé. Et donc, je crois que réellement, le ministre a vu qu'effectivement, l'autorité qui doit marquer le parquet par laquelle d'ailleurs la puissance publique de l'État s'exprime, est partie en décrépitude. Est-ce que je me fais comprendre? Est tombée. Et à partir du moment où cette autorité est tombée et que cette organisation qui aurait dû être bien garantie...
Cela se résume au dysfonctionnement. Comment peut-on expliquer qu'il y ait un dysfonctionnement dans la justice malienne?
Bon, ça peut exister, n'est pas seulement au niveau des hommes.
Hein? C'est au niveau aussi que c'est pratiquement la deuxième fois qu'on signale ce genre de situation.
Bon, moi, je ne connais pas, mais dans le cas d'espèce, il va falloir qu'il y ait un ensemble de conditions qui se présentent à moi pour que je puisse apprécier. Je n'ai pas vu quelles sont les motivations de la cour d'appel. Qui est amené à abandonner les poursuites.
Monsieur Dakono, certains pensent que c'est un fait exprès.
Bon, ça va être difficile de faire un jugement de foi ou de bonne foi ou de mauvaise foi à ce stade. Mais je tiens juste à préciser, je n'ai pas dit que c'est la deuxième fois que cela arrive. En termes de, j'ai parlé de dysfonctionnement, mais en termes de dysfonctionnement, j'ai dit cela s'est matérialisé par le fait que ce qui s'est dit hier du tribunal, c'est qu'une clé USB contenant les informations qui a permis au parquet juste là de poursuivre l'affaire a disparu entre justement le tribunal de la commune 4 et la cour d'appel. Il était impossible de retrouver la clé. Donc la clé contient des preuves matérielles. Donc ça a disparu. Et des disparitions de preuves matérielles, il semble que cela soit fréquent au niveau des tribunaux, des cours et tribunaux. Et j'ai donc dit que c'est très inquiétant à ce stade.
D'accord. Monsieur Maïga, tout de suite, ceux qui ont intervenu, la plupart d'entre eux ne croient plus, on peut le dire ainsi, à la justice malienne. Ont-ils raison ou pas?
Justement, il y a justement cette impression largement partagée que nous avons une justice aux ordres. une justice aux autres, alors que la justice est le garant de la démocratie et donc le garant des droits individuels et collectifs, donc des citoyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le retrait des poursuites. Okay, la cessation des poursuites et la relaxe donc de Mohamed Youssouf Bachili s'explique par la vacuité du dossier du point de vue juridique, mais surtout la pression de la rue. Il ne faut pas l'oublier, Ismaël l'a évoqué tout de suite. Ce n'est pas anodin. Et le procureur a fait beau jeu de le faire puisqu'il est garant de la quiétude sociale en même temps. Okay. Et la quiétude sociale étant sérieusement menacée parce que personne n'aurait prédit ce qui se serait passé en cas de condamnation et donc définitive en ce moment puisque la cour d'appel est la cour qui juge en dernier ressort sur les faits et le droit. Et donc une condamnation aurait été prononcée sous le contrôle de maître et on l'aurait mis les menottes. Et en cas de confirmation des 12 mois d'emprisonnement ferme, on a mis les minutes. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé. Et je pense que pour tasser justement la situation, on a dû prendre cette décision plutôt courageuse sur un point de vue, mais qui montre un certain dysfonctionnement du point de vue même de l'appareil judiciaire au Mali.
Alors cette prise de décision est-elle une bonne chose ou une mauvaise?
A priori, je dis que c'est une bonne chose. De deux points de vue. D'un, que le juge même se rende compte que le poids des arguments tenant à condamner Rasbach était vraiment tenu, donc minime. Évidemment, il n'y avait pas des arguments suffisamment lourds. Et de l'autre côté, il y avait cette quiétude sociale à maintenir. Nous sommes d'accord, vu la situation assez névralgique qu'est vu le pays, nous sommes d'accord, on ne peut pas se payer le luxe de vivre une autre crise interne. Maintenant, il faut comprendre les citoyens qui sont dans une situation de goût inachevé de révolution. Nous sommes d'accord, depuis la crise de 2012, on avait pensé qu'il y avait une certaine reprise des choses en main et le nouveau pouvoir étant venu, a perdu justement tout pouvoir moral. En fait, je veux dire, il y a un crédit moral dont ne bénéficie plus justement le pouvoir actuel, mais aussi la justice avec, parce que la justice n'a pas montré, même si elle a eu des occasions de le faire, n'a pas montré des gages d'indépendance par rapport à tout ce qui se joue aujourd'hui. Et donc, c'est le citoyen qui se sent faible, comme on l'a dit, qui se sent menacé et qui a justement ce réflexe-là de se regrouper autour justement de ce porte-voix qui est Rasbach.
D'accord.
Et donc, voilà un peu qu'est-ce qui...
Monsieur Ismaël Maïga, si cette décision de la Cour a été prise pour la quiétude sociale, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Bon, en fait, c'est un peu compliqué. Sérieusement, en tant que citoyen, c'est compliqué. Les hommes de droit, ils parlent du droit. En fait, le droit, il doit être le droit. Maintenant, le politique devrait pouvoir décider autrement. Mais si on doit apprécier le droit en fonction de ce que la rue pense, ça peut inquiéter. Et ça conforte un peu tout ce que les gens disent. On n'a pas confiance à la justice. Ça veut dire, tant que tu as la capacité de mobiliser... tu peux être certain que tu ne vas pas être enfermé. Ça, c'est très grave. Ce que je vais dire là, moi, je pense que pour le droit, la relaxe de Rasbach, et puis c'est très bien fait de s'utiliser ou de ne pas avoir les éléments d'appréciation pour dire qu'en fait, le dossier est vide au motif de cette vacuité, on le libère. Ceux qui pensent, je n'ai pas les preuves matérielles, mais ceux qui pensent que tout a été fait pour que cela soit, n'ont pas totalement tort. Il semble que le pouvoir a peur de la rue, a peur.
Alors, et vous pensez que la rue ne devrait pas avoir une influence sur la justice?
Absolument pas. De mon point de vue, la justice doit être rendue.
D'accord.
Le politique, pour apaiser, doit élargir Rasbach s'il veut ou pas. pour apaiser. Mais la justice, on doit la rendre.
D'accord.
Et c'est pourquoi je trouve que le ministre de la Justice, effectivement, comme Maître Yarou l'a dit, on ne connaît pas tous les contours, mais au vu de la lecture de sa lettre, apaiser le climat social, alors on piétine les droits, c'est inquiétant pour nous, électeurs.
D'accord,
et monsieur, ça donne...
monsieur Dakono, est-ce que la justice malienne est indépendante aujourd'hui quand on sait que également le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République ?
Justement, avant que vous ne posiez cette question, je me disais juste la façon dont on parle peut-être amener la confusion chez les gens qui nous écoutent en ce moment, parce que en matière de justice, il y a deux sortes de juges, comme vous avez cru le comprendre. Il y a des juges, deux sortes de magistrats. Il y a des magistrats qui relèvent du parquet, donc qui sont rattachés au ministre de la Justice, et il y a également les magistrats du siège, que eux rendent la justice, qui ne relèvent pas du ministère de la Justice. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que c'est les magistrats même qui relèvent du ministre de la Justice qui ont abandonné les charges. Donc, ce n'est pas comme si les juges du siège, qui sont tout à fait indépendants, ont reçu une instruction pour dire « Rasbach est libre ». C'est que c'est le procureur qui poursuit Rasbach qui a dit « Je retire ce que nous, on avait dit, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. » Et c'est pourquoi on dit que le dossier est manquant. Donc, il y a deux sortes de... Bon, pour parler le langage commun, il y a deux sortes de juges. Il y a les juges qui défendent l'intérêt public, donc comme Maître l'a dit tout à l'heure, là, qui mettent en mouvement l'action publique, qui relèvent du ministère de la Justice, qui sont chargés de protéger les intérêts, de garantir, protéger les intérêts de tous les citoyens, y compris le citoyen lui-même, pour le protéger contre lui. C'est eux qui mettent en mouvement l'action en justice, et c'est là que le deuxième juge intervient pour trancher. Lui, il est indépendant, il ne relève de personne. Il dit la loi suivant ce qui lui a été donné, c'est-à-dire le code, tous les instruments, la jurisprudence, tous les instruments qui sont à sa disposition pour trancher. Et ce juge, il est totalement indépendant.
D'accord. Mais vous avez soulevé une question tout de suite. Comment peut-on expliquer cette situation que les juges qui relèvent du ministère de la Justice eux-mêmes décident d'abandonner les charges et que le ministre démissionne après ?
C'est ce qu'on a dit. Il y a certainement eu un dysfonctionnement. Et si je crois que le fait que je dise que si on peut attribuer toujours la lettre au ministre, c'est qu'il a fait une publication sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu la lettre dans sa publication. La lettre est venue bien après. Donc pourquoi jusqu'à présent, pour moi, la lettre n'est pas authentifiée, mais si elle venait d'être authentifiée, il a expliqué et on fait de la lecture de cette lettre, on comprend justement que la décision d'abandonner les charges du procureur à ce niveau n'émanait pas de lui. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est dans un système hiérarchique et au bout duquel on trouve le ministre de la Justice. Donc ça suppose un dysfonctionnement, ça suppose un désaveu.
D'accord. Et si on généralise cette situation de la justice malienne, est-ce que vous pensez qu'elle est indépendante ?
Je pense que c'est difficile de faire l'analyse ou le procès de la justice elle-même en deux minutes ou sur la base d'un événement ou d'un épiphénomène. Mais il y a une situation qui est là, qui caractérise le contexte malien. C'est que, premièrement, on a une justice très éloignée des communautés. Et que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, mais surtout en milieu rural, où on a une fréquence inquiétante et importante de conflits de plusieurs ordres. Et sur trois conflits, au moins deux ont un grief au cœur contre la justice ou un reproche. C'est-à-dire que la justice est au cœur d'au moins sur deux conflits dans ces environnements. En plus de ça, dans le milieu urbain, il n'y a plus cette foi en la justice. Et ça se manifeste par la volonté des citoyens à rendre justice eux-mêmes. On ne passe pas une semaine sans lire que telle personne a été lynchée parce qu'elle essaie de voler une moto, telle personne a essayé de se rendre justice elle-même. Parce que finalement, les gens vous diront, non, chaque fois qu'on amène par exemple un captif ou une personne supposée coupable à la justice, on retrouve la personne. Et la justice semble être le maillon le plus visible d'une chaîne qui est défaillante de bout en bout. Parce que ce n'est pas le moment de rendre justice, ce n'est pas le verdict qui caractérise cette justice. Il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne qu'il faut prendre en compte. Pour citer seulement un élément, il y a la police, il y a l'investigation. Donc il y a tellement d'éléments, mais il y a une défaillance presque à tous ces niveaux. Et c'est la plus visible, justement, on va dire les deux les plus visibles, parce que quand on parle de corruption, il est difficile que la police ne soit citée. Les deux les plus visibles, c'est justement la police et la justice.
sans dédouaner bien entendu les dysfonctionnements et tous les problèmes qui existent au niveau de la justice, il est quand même bon de le replacer dans un contexte où on a des défaillances au niveau de toutes les chaînes du maillon.
D'accord, monsieur Maître Yaro, vous, selon vous, où se situe le problème par rapport à ces dysfonctionnements?
Le problème, il se situe tant dans les règles que au sein des hommes qui animent la justice, parce qu'il faut reconnaître que la justice, le droit à la justice, il y a des éléments, hein, des éléments qui englobent. C'est d'abord le droit à la règle des droits. Hein? Ensuite, il y a le droit d'accès à la justice, c'est le problème qu'ils viennent d'évoquer. Le droit d'accès à une justice juste, indépendante et impartiale. Et le droit à l'exécution saine des décisions de justice. Dans ces différents niveaux, il y a des problèmes. Entre autres, il a évoqué les problèmes de la disparité qui existe entre, comment on appelle la justice, et les sujets des droits. D'autres ont évoqué le phénomène de corruption. Bon, je ne vais pas m'apesantir parce que, au terme du règlement, l'avocat est un acteur de la justice. Mais en tout état de cause, je peux, sans risque de me tromper, dire qu'il existe aujourd'hui un malaise à cause de ce qui a été remarqué hier contre la justice. Il semble que la justice est revenue dans la rue. Ce n'est pas la justice institutionnelle qui a rendu cet arrêt. Donc maintenant, il y a quand même des problèmes très sérieux. Et quand on veut les évoquer, ce n'est ni le moment ni le lieu parce qu'on n'aura pas le temps. Tant les éléments sont là. Maintenant, il y a des réformes qui sont envisagées, le plan d'urgence de la justice, le programme de réforme de la justice, tout ça. C'est des processus en cours. Il faut les hâter pour que, en fait, la justice puisse avoir, comme on appelle, la plénitude de ses pouvoirs. Parce que si la justice n'a pas la plénitude de pouvoirs, l'État n'existe plus. L'État, c'est la forme d'organisation sociale achevée qui brandit la justice à travers la mise en œuvre de la puissance publique. La puissance publique de l'État est fondée sur la justice. Si la justice est galvaudée, si la justice est aux ordres de je ne sais qui, ça veut dire qu'elle a perdu ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, je pense que on ne se trompe pas en disant qu'il existe un malaise au sein de l'appareil judiciaire.
D'accord, M. Maïga. Beaucoup de personnes pensent qu'au Mali, on n'a pas un problème de texte, même si Maître Yaro vient de parler de réforme, mais la mise en œuvre de ces textes pose toujours problème. Et également, certains pensent que quand on prend même la crise du Mali au nord et au centre du pays, une des causes de cette crise est due au dysfonctionnement de la justice. Qu'en pensez-vous?
Je crois que nous n'avons pas des problèmes de texte, même si quelques réglages peuvent être menés, par exemple la réorganisation et la composition, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature pour donner en fait plus de liberté aux magistrats entre eux de réguler ou de prendre des décisions du point de vue administratif. Okay, mais le chef de l'État, le président de la République, même s'il est le président de du Conseil supérieur de la magistrature, mais il n'a pas une voix majoritaire. Nous sommes d'accord. En majorité, c'est les magistrats qui décident entre eux au sein de cette structure. Ok. Maintenant, par rapport à la réorganisation même de la justice, je pense aujourd'hui la justice et les magistrats ont besoin surtout de moyens logistiques pour fonctionner. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, un juge veut faire une extraction de détenus, mais il faut qu'il mette la main à la poche pour le carburant ou pour telle ou telle autre chose. C'est des problèmes de dysfonctionnement. Et donc, là, il est obligé de passer par d'autres moyens, ce qui n'est pas du tout orthodoxe en termes d'une administration aussi importante pour notre démocratie et notre État, comme Mettiaro l'a dit. Maintenant, les réformes tenteront certainement de corriger ces aspects du point de vue logistique, peut-être du point de vue formation aussi. Mais aujourd'hui, notre justice, elle est... Et on ne peut pas généraliser, mais là, elle donne l'impression d'être aux ordres, puisque l'exécutif a une percée assez importante dans le fonctionnement.
Donc son indépendance doit être mise en cause.
Son indépendance peut être remise en cause parce que justement, on ne lui accorde pas tous les moyens. Pour justement...
Qui ne lui accorde pas
mais
les
l'État,
moyens.
L'État, justement, le pouvoir exécutif et les pouvoirs législatifs, c'est qu'ils doivent voter un budget, nous sommes d'accord, et leur allouer ces moyens-là. Ils ont, les magistrats ont observé une grève plutôt généralisée pour réclamer justement des aspects purement pécuniaires. Nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de remise à niveau de ce... Puisqu'on clame leur indépendance, nous sommes d'accord, il faudrait leur donner les moyens de cette indépendance pour qu'ils puissent décider. Et même et puis, ils ne soient pas inquiétés par rapport à leur carrière, je veux dire, du point de vue administratif. D'accord. Et ça, c'est des questions qui restent posées.
Monsieur Ismaël Maïga, nous avons entendu quelqu'un qui a déclaré qu'il est fier de la justice malienne. Alors, selon vous, quels sont les points forts de la justice malienne aujourd'hui?
Bon, la justice malienne, je pense qu'il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on dit la justice n'est pas bien rendue, la justice est malade, bon, en fait, on essaie de... C'est de façon un peu caricaturale. Mais il y a assez bien de jugements qui sont bien rendus. Il y a des juges qui ne cèdent pas. Mais c'est tout à leur honneur de rendre la justice conforme à leurs convictions. Comme ils disent, à leur intime conviction. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'il y a une grande collision entre la justice et le politique. Ça, c'est un fait. Et là où le politique doit s'exercer clairement pour conforter l'action de la justice, le politique ne le fait pas. Je vous prends un exemple.
Ça, c'est les points faibles, on va venir à ça. Mais est-ce que vous avez constaté des points forts de la justice malienne?
Écoutez, je ne suis pas un...
Monsieur Yarou,
S'il vous plaît, je suis quand même le représentant de... Il y a trop d'hommes de droit ici, donc laissez-moi souffler un peu.
Donc, on va vous laisser souffler un peu juste après Monsieur Yarou. Monsieur Yarou, selon vous,
non,
les points forts...
Non, il veut dire de le laisser souffler un mot.
Ok, allez-y. Non,
allez-y.
D'accord, tout de suite après à vous. Monsieur Yarou, les points forts...
Les points forts existent. Ce n'est pas moi qui ai parlé de la modicité des moyens au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dotée de tous les moyens qui la permettent de dérouler.
Ça, toujours, c'est les points faibles, mais les points forts aujourd'hui de
oui,
la justice.
Voilà, laissez-moi dérouler mon argumentaire, vous allez comprendre.
Allez-y.
C'est que malgré la modicité de ces moyens, les décisions de justice saines sont constatées devant la justice, tant au niveau des tribunaux d'instance qu'au niveau le plus élevé. Et aujourd'hui, vous avez dit, les défis sont beaucoup plus grands. Sinon, le travail qui est en train d'être fait, aujourd'hui, tend à entrer dans la modernité. Au moment où je parle, il y a beaucoup de magistrats qui sont en laisserrière pour suivre des formations, c'est-à-dire des renforcements de capacités. Il n'y a pas une seule conférence de haut niveau qui se tienne sur la justice et la magistrature sans que nous ne soyons représentés. Mais maintenant, les défis sont grands. Les besoins aussi sont nombreux.
On va parler de ces défis tout de suite. Monsieur Dakono, voilà. Vous, de 1960 à aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté, vous pouvez nous parler comme exemple, certains des points forts de cette justice malienne?
Bon, je n'ai pas la profondeur historique pour remonter jusqu'à 1960, mais je vais quand même parler d'une époque plus récente, qui est pour moi une avancée significative et déterminante, qui peut être mise à l'actif du ministre démissionnaire, qui est la création du pôle spécialisé, qui est quand même, quand on voit
un phénomène au Mali, au Burkina, au Niger, bon, dans une moyenne mesure au Burkina, mais surtout au Mali, au Niger, où des prisons sont remplies de personnes, de présumés djihadistes, sans que la justice n'ait les moyens ni la capacité de les juger, moyens et capacités en termes de vue de texte, en termes de vue de tribunaux justement spécialisés. La création de ce pôle est une avancée significative. L'ouverture de dossiers par ce pôle est également une avancée significative pour moi. C'est en termes de protection des droits humains, c'est un des points positifs qu'on peut mettre au crédit de la justice malienne.
D'accord, M. Maïga, les points faibles.
Les points forts ou faibles?
Faibles.
Les points faibles, je pense qu'on en a parlé à suffisance. Mais
donc, oui.
Déjà, j'ai dit, nous avons, heureusement d'ailleurs, des très bons magistrats dans ce pays qui ont toutes les qualités professionnelles et humaines qu'on pourrait imaginer. Ils les ont et ils sont nombrés à satiété. Okay. Maintenant, en général, les plus bons sont les moins bruyants. Nous sommes d'accord. Et quand vous entendez des bruits, c'est que c'est des casseroles vides, ainsi de suite. Okay. Et c'est des situations assez incongrues ou iconoclastes qui nous amènent dans ce que nous avons vu, par exemple, hier, où on fait des approximations et on tombe dans ces graves erreurs qui, justement, impactent négativement sur l'image de toute la justice. Sinon, nous avons de très bons magistrats. Et vous savez qu'à l'extérieur, ils sont reconnus. Connu justement pour cela, okay? Parce qu'il se frotte à d'autres magistrats. Nous sommes d'accord. Mais d'ores déjà, j'ai dit, par rapport au point faible, nous avons aussi dit qu'il n'y a, a pas cette séparation des pouvoirs entre justement l'exécutif qui a tendance à prendre trop sur le judiciaire. Parce que nous sommes ici d'un système d'organisation à la française. Mais le système français judiciaire a évolué par rapport à nous et on n'est pas allé jusqu'à la République des juges, mais il y a quand même une certaine liberté qui est donnée aux juges, par exemple aux juges d'instruction, aux juges jugeants, aux juges du siège, comme on le dit.
D'accord.
Donc, mais nous sommes restés dans une situation purement des relations administratives entre l'exécutif et donc les magistrats qui sont des fonctionnaires, et cette impression demeure. Et les magistrats eux-mêmes n'ont pas ce réflexe de prendre leur part d'indépendance que la loi et même la conscience leur accorde pleinement.
D'accord. Donc, Monsieur Maïga, nous avons un nouveau ministre, Hamidou Younoussa Maïga. Quelles sont les attentes et les défis auxquels ce ministre devra faire face?
Vous me permettrez de parler un peu des problèmes
des
d'abord.
Des points forts en une minute maximum,
pas
s'il vous plaît.
Des points forts, des points faibles.
Allez-y.
Le verdict hier est l'illustration parfaite des points faibles de la justice. On ne comprend pas. Alors, dès qu'il y a un bruit dehors, et pour la première fois, en tout cas personnellement, j'ai vu des gens rentrer, se permettre de filmer simplement parce qu'on a peur. C'est quelle justice? Vous savez, il y a un monsieur qui a été jugé, vous vous rappelez, je sais que Tamani a dû couvrir, Aliou, commissaire islamique. Mais il a dit clairement, je suis là parce que je suis noir et de Gao. Ceux qui me donnaient les ordres, ceux avec lesquels je dormais, ils ne sont pas là. Ils sont dans les 4x4 à Bamako, dans les villas climatisées.
D'accord. Donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui?
Les attentes, c'est que la justice soit la justice, simplement.
D'accord. Monsieur Yaro, est-ce que vous pensez que le nouveau ministre pourra faire face à ces défis?
Oui, vu sa carrière intellectuelle et son expérience professionnelle qui a dépassé quand même nos frontières. N'oubliez pas qu'il était juge dans un tribunal international, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui est intransigeant sur des questions de crédibilité et de morale.
D'accord.
Maintenant, les défis sont nombreux.
Ils sont nombreux.
Peut-être que
Monsieur
c'est
Dacono,
pas...
Monsieur Dacono, est-ce que le nouveau ministre aura les moyens qu'il faut pour faire face à ces défis?
Je pense que cela se résume au propos des deux prédécesseurs, Maître Ismaël Meïga et puis Maître Yaro. C'est que ça va dépendre en fait de sa capacité à pouvoir remettre la justice, à pouvoir donner des réponses de justice aux questions de justice et à laisser les questions de politique être résolues par des opinions politiques. Mais pour le deuxième propos, ça va aussi dépendre de sa capacité, avec un point de vue, une expérience internationale, à avoir un regard sur les problèmes locaux. Parce que les problèmes de justice sont beaucoup nourris par des dynamiques locales dans ce pays.
D'accord. Toutes nos excuses, le temps ne nous permettra pas d'aller en profondeur de ce sujet. Nous aurons d'autres occasions pour parler de la justice malienne encore. C'est la fin de cette émission. Nos invités, Ibrahim Kassa Maïga et Baba Dakono, juriste, Maître Khalifa Yaro, avocat, et Ismaël Alassane Maïga, sociologue. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde de Salim Djouara, régie vidéo assurée par Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.